J'ai une habitude depuis des années. J'aime commencer l'année avec un message sur la parole de Dieu. Et ça ne va pas nécessairement dans le sens des résolutions du nouvel an, autant que l'idée de dire, bien, on commence une nouvelle année, commençons ensemble un plan de lecture des Écritures ou prenez un plan qui est le vôtre. Et ce matin, on va aller dans un passage qui nous montre non seulement l'importance de la parole de Dieu pour notre foi personnelle, mais aussi pour nos familles, pour nos foyers, pour notre Église. Et ce qu'on veut voir ensemble, c'est combien la parole de Dieu doit faire partie de nos vies comme Église. On veut non seulement lire régulièrement les Écritures, on veut méditer les Écritures, mais on veut parler ensemble de la parole de Dieu afin de grandir ensemble, apprendre ensemble à observer tout ce que Jésus nous a prescrit. Et on va dans un beau passage dans le livre du Deutéronome au chapitre 6 où on voit vraiment l'importance de la parole pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Jésus-Christ aussi. On va aller dans un mot de prière, puis Mireille va venir nous lire les Saintes Écritures. Bien, Père éternel, on est assemblés ce matin. On est assemblés ce matin, Seigneur, pour venir recevoir le message de ta parole dans nos cœurs. On est assemblés ce matin, Seigneur, pour que tu viennes nous rencontrer, que tu viennes nous parler, que tu viennes nous voir, Seigneur. On te demande, Père, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre esprit. À la maison, Seigneur, qu'on puisse faire le silence, arrêter les activités et simplement venir se placer sous le ministère de ta parole, Seigneur. Père, nous savons et nous avons la profonde conviction que tu es avec nous actuellement, en ce moment, Seigneur. Même si nous n'avons pas le privilège de se réunir en Église, en assemblée, tu demeures avec nous, avec chacun d'entre nous, Seigneur. Viens consoler nos cœurs par ta parole. Viens consoler nos cœurs par la louange, Seigneur. Garde nos cœurs et nos yeux fixés sur toi. Viens nous rencontrer ce matin, Seigneur, là où nous sommes, dans nos foyers. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Les passages bibliques de ce matin sont tirés de Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 9, et Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, dans la nouvelle édition de Genève. Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
J'avais oublié de vous donner des nouvelles un petit peu de ma COVID-19. Il me reste, dans le fond, vous allez le voir, là, il me reste une petite toux de rien, là. Mais ça s'est quand même bien passé. Disons que j'ai eu une bonne édition du virus. Si vous avez l'attrapé, je vous souhaite que ce soit aussi simple que ça. Ça a été l'équivalent d'un bon petit rhume pour moi. Puis, à part un peu de sécrétion, là, tout est passé. Donc, merci pour ceux qui ont prié. Le Seigneur est très, très bon. Puis, en principe, je devrais être super blindé, là, Dieu voulant. Je vais être un des plus protégés qui existent, par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, on s'en va dans ce passage-là. Puis, je veux juste, pour que vous compreniez le parallèle qu'on est en train de faire entre Matthieu. Pourquoi est-ce qu'on lit Matthieu en relation, Matthieu 28, en relation avec Deutéronome 6? Bien, clairement, Matthieu voit un parallèle entre le ministère de Jésus et le ministère de Moïse. Dieu nous avait annoncé, en fait, Moïse lui-même avait annoncé qu'un autre Moïse viendrait un jour. Et lorsqu'on est dans l'évangile de Matthieu, assez tôt dans l'évangile, il y a le sermon sur la montagne. Et lorsqu'on a le sermon sur la montagne, et si on est attentif à ce qui est en train de se passer, Jésus qui monte sur une montagne, qui s'en va donner sa loi, il est en train de se présenter comme ce second Moïse qui nous apporte la parole de Dieu. Et donc, tout l'évangile de Matthieu, à travers cet évangile-là, à plusieurs reprises, Jésus est comparé à Moïse avec cette nouvelle alliance qui nous est donnée, avec cette nouvelle loi, qui n'est pas une loi qui vient contredire la précédente. Au contraire, elle vient s'accomplir en Jésus-Christ. Et donc, il y a un parallèle qui est là. Lorsque moi, j'étais en train d'étudier Deutéronome 6, bien spontanément, Matthieu 28 me venait à l'esprit parce que, à mon avis, il y a encore plusieurs parallèles qui sont là. Donc, lorsqu'on est dans Deutéronome 6, Moïse s'apprête, il prépare le peuple à rentrer dans la terre promise. Et là, au moment de rentrer dans la terre promise, il leur dit, « Je dois vous rappeler, je veux vous présenter ce que vous allez devoir garder dans votre cœur pour rentrer dans cette bénédiction-là que Dieu veut vous donner. » Et donc, vous allez devoir garder sa loi dans vos cœurs, près de vous. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, avec le ministère de Jésus-Christ, bien, lorsque Jésus envoie ses disciples, on ne pourrait pas aller jusqu'à dire qu'il les envoie vers une terre promise. Notre terre promise à nous, ultimement, nous l'attendons quand Jésus-Christ va revenir. C'est là qu'on va être entièrement libérés des conséquences du péché, du combat même avec le péché, de la mort physique. On va vivre entièrement libérés du péché. Notre terre promise, c'est au retour de Christ. Mais en même temps, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. L'Esprit va être donné aux disciples. Et les disciples sont envoyés pour faire une certaine conquête. Ils sont appelés à aller faire la conquête de cœurs qui vont se convertir à Christ. Donc, si Israël est appelé à rentrer dans cette terre promise, l'Église est appelée à aller de par le monde, vers toutes les nations du monde, et aller annoncer l'Évangile pour faire la conquête de cœurs que Dieu appelle à Jésus-Christ. Et il va y avoir des gens par milliers, par millions, qui vont croire en Jésus-Christ et qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, je vois ce parallèle-là où Jésus dit à ses disciples, « Bien, maintenant, vous allez aller faire ça et vous allez enseigner à ces gens qui vont croire à marcher et à observer tout ce que je vous ai prescrit, toutes mes prescriptions. » C'est vraiment intéressant. Jésus est en train de placer ses enseignements à lui comme l'ultime loi que les disciples doivent observer. Et encore une fois, Jésus n'est pas en train de rejeter l'Ancien Testament. Il le dit spécifiquement, il est venu pour accomplir toute la loi et les prophètes, tout l'Ancien Testament. Jésus est venu pour l'accomplir. Mais en même temps, nous comme chrétiens, nous lisons toute la Bible. Nous lisons tout l'Ancien Testament à la lumière de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus peut dire, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous envoie pour faire des disciples, vous allez leur enseigner ma parole, ma loi, vous allez leur enseigner à l'appliquer. » Et dans Deutéronome 6, c'est ce qu'on trouve. Alors que Moïse prépare le peuple à entrer dans la terre promise, il leur dit, « Vous allez garder près de vos cœurs la loi, la parole de l'Éternel pour la mettre en pratique. Vous allez apprendre à l'observer. » Et je vois vraiment ces deux beaux parallèles où nous, comme chrétiens, pouvons nous tourner maintenant vers Deutéronome 6 et apprendre aussi la place de la parole de Dieu dans nos vies, dans nos foyers, dans notre Église, dans nos relations ensemble. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. En 2022, nous sommes appelés à lire et à parler ensemble, constamment, de la parole de Dieu pour apprendre à suivre Jésus. En 2022, nous sommes appelés à lire et à parler ensemble constamment de la parole de Dieu pour apprendre à suivre Jésus. Premièrement, la parole de Dieu, une loi que l'on apprend à chérir. Pourquoi utiliser le mot « loi » Je veux juste clarifier quelque chose. Il y en a qui ne sont pas bien avec ça. La parole de Dieu, une loi que l'on apprend à chérir. Pourquoi est-ce qu'on définit la parole de Dieu comme une loi? La loi, c'est quelque chose qui peut être lourd, c'est quelque chose qui peut nous sembler oppressant, c'est des interdictions. Mais c'est beaucoup plus que ça. Voyez-vous, la Bible n'est pas un livre comme les autres livres. La Bible, c'est la révélation de la personne de Dieu. À travers les Saintes Écritures, Dieu s'est fait connaître à nous, il nous a révélé sa personne, son cœur, sa pensée, ce qu'il attend de nous, sa vision pour l'humanité, son moyen de salut pour l'humanité. Donc, toute la Bible est beaucoup plus qu'un simple livre. C'est le livre par excellence qui nous fait connaître la pensée de Dieu. Et donc, ce que nous, on désire, c'est conformer nos cœurs, notre pensée, nos actions à ce livre-là. Vous avez tous entendu déjà l'expression, on va dire des fois dans tel ou tel domaine, je ne sais pas, en botanique, ce livre-là, c'est la Bible de la botanique ou ça, c'est la Bible du nursing. Bien, ce livre-là, là, c'est la Bible de la vie. C'est la Bible de toutes les Bibles. C'est la Bible qui nous permet de connaître Dieu. Et donc, c'est raisonnable de dire que ce livre-là est une loi pour notre cœur. Et que toutes les Saintes Écritures, c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la révélation de Dieu à laquelle on désire conformer nos cœurs. Parce que c'est lui notre Créateur, c'est lui qui nous connaît. Et donc ça, c'est la Bible de la vie. Et on veut apprendre à la connaître, à l'aimer. La Bible fait autorité parce qu'elle est la révélation divine sur l'être le plus merveilleux qui existe. Et Dieu nous a donné cette loi-là, cette Bible-là, cette parole-là pour l'aimer lui, pour apprendre à l'aimer, pour apprendre à le connaître. C'est une loi qui nous apprend à aimer celui qui nous a aimés en premier. Le but de toutes les Saintes Écritures, ce n'est pas de nous montrer comment marcher. Le but de toutes les Saintes Écritures, ce n'est pas de nous corriger. Le but premier de toutes les Saintes Écritures, c'est de nous faire connaître Dieu afin que nous puissions aimer notre Créateur, aimer celui qui nous a tout donné, celui qui t'a donné l'existence, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé la terre tellement merveilleuse. Le but, c'est qu'il se fasse connaître à nous afin qu'on puisse entrer dans une relation d'amour avec lui. C'est ça le but de toutes les Saintes Écritures. Si ta vision de la Bible, c'est « Écoute, c'est un livre lourd, c'est un livre vieux, il est difficile à comprendre, j'ouvre ça puis il me semble que ça ne m'interpelle pas. » Le but de ce livre-là, c'est de te faire connaître ton Créateur pour que tu puisses entrer dans une relation d'amour avec lui. C'est vraiment ça le but de ce livre-là. C'est à ça qu'il sert fondamentalement. Une loi pour apprendre à aimer celui qui nous a aimés premièrement. Et je vois dans Deutéronome 6 au verset 5, le commandement qui résume tous les commandements de la Bible, toutes les lois de la Bible se résument à une loi fondamentalement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le premier commandement, ce n'est pas « tu seras soumis à l'Éternel ton Dieu », c'est « tu l'aimeras ». Parce que ce que Dieu désire, c'est vraiment une relation d'amour. Il ne veut pas des êtres serviles, qui ne sont pas capables de réfléchir, qui ont juste une peur terrible de Dieu, une peur terrifiante de Dieu. Non, dans les Écritures, lorsqu'il est question de craindre Dieu, on parle simplement d'avoir une perspective lucide. Être lucide, être conscient de qui je parle. On est en train de parler du Créateur, de celui qui a pensé ton existence, littéralement, celui qui a voulu ton existence. Le but premier des Écritures, c'est de nous apprendre à aimer Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et dans les Écritures, Dieu nous révèle que cet amour qu'il désire recevoir de notre part, c'est en fait une réponse à son amour premièrement. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises déjà, c'est lui notre Créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui t'a donné l'existence, c'est lui qui te donne de respirer. Mais il a fait plus que ça encore. Il a fait plus que te créer, Il a donné son Fils pour toi et moi, afin que nous puissions être réconciliés avec lui et que nous puissions le connaître, puis entrer librement dans cette relation d'amour-là avec lui. Dans Jean 3,16, le verset le plus connu des Écritures, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous invite à entrer dans cette vie éternelle-là avec lui, et c'est une réponse simplement, c'est rendu possible simplement à cause de son amour. Le but de toutes les Écritures, c'est de nous apprendre qui est Dieu, afin que nous puissions l'aimer vraiment. Et cet amour-là est une réponse à son amour à lui. Et c'est pour ça qu'on lit toutes les Écritures en comprenant de mieux en mieux ce que Jésus-Christ a fait. Parce que ça m'aide à découvrir l'amour de Dieu pour moi et ça nourrit mon amour pour lui. Ça me donne envie de l'aimer en retour. Simplement d'être reconnaissant pour son amour pour moi. Je vais vers les Écritures pour que les Saintes Écritures me rappellent constamment ce que Jésus est venu faire, combien Dieu est bon, combien Dieu m'aime. Et en retour, je vais apprendre à l'aimer. Je vais prendre plaisir à l'aimer. La Sainte Bible t'a été donnée pour que tu apprennes à aimer Dieu. Elle est vraiment précieuse. Elle est vraiment précieuse. En l'étudiant, en la lisant, en partageant ensemble sur ce qu'on y découvre, on y découvre un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous attend tous les jours. Tu ne lis pas ta Bible demain, bien, tu viens la lire le surlendemain. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus plaisir à Dieu que de nous voir revenir ou venir à lui. C'est un Dieu de grâce. C'est donc une loi pour apprendre à aimer Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et si cette Bible-là sert à nous apprendre à aimer Dieu, bien on va aussi apprendre à aimer la Bible elle-même. Je vais apprendre à aimer ce livre-là. Il va devenir précieux pour moi. Laissez-moi vous donner une illustration. Quand tu explores un nouveau sujet, je ne sais pas quelle carrière, quelle profession, quel champ d'études ou dans quel domaine tu travailles. Puis des fois, tu n'as même pas des études, tu as appris le métier sur le tas, comme on dit au Québec. En travaillant, tu l'as appris. Mais au début, quand tu rentres dans ce nouveau champ d'expertise-là, puis quel que soit ton travail, il y a un domaine d'expertise qui est là, bien au début, ça peut être lourd, ça peut être incompréhensible, ça peut... Puis si tu vas dans des domaines plus techniques ou scientifiques ou peu importe, ça peut être extrêmement lourd. Puis ça peut être intimidant. Bien, commencer à lire les Écritures, là, ça peut produire exactement le même effet. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsqu'on s'assoit avec quelqu'un qui maîtrise son champ d'expertise, je ne sais pas, tu parles avec un électricien qui commence à t'expliquer l'électricité. Tu parles avec un médecin qui commence à te parler de la médecine. Tu parles avec un ingénieur. Tu parles avec un mécanicien. Commence à t'expliquer la mécanique de ta voiture, puis ça le passionne. Tu vois très bien qu'il maîtrise ça, il est dans son élément. Il y a une passion pour ça. Et c'est la même chose. Dieu nous a donné sa parole pour qu'on apprenne à l'aimer, et on va apprendre à l'aimer en apprenant à aimer les Écritures. Et au début, ça peut être extrêmement intimidant, mais si tu lis les Écritures régulièrement, si tu le lis en partageant avec ton église locale, ce que tu es en train de découvrir, si tu étudies les Écritures, à un certain moment donné, là, ça va devenir un second langage. Ça va devenir une langue que tu vas parler couramment. Puis, une des plus belles illustrations de ça, c'est que quelques années après avoir commencé à lire les Écritures et étudier les Écritures, tu vas t'asseoir avec quelqu'un qui est un néophyte, qui n'a jamais lu la Bible. Il va arriver avec des questions, puis là, tu vas dire, « Aïe, aïe, OK, là, on... » Là, tu réalises le champ de tout ce que tu as découvert sur Dieu, sur sa personne, simplement en lisant, en écoutant des prédications, en discutant avec des frères et sœurs. Pas besoin d'aller faire un doctorat en théologie, là. Juste en lisant la Bible, en prenant les outils communs qu'on a dans l'église locale, en parlant régulièrement avec des frères et sœurs des Écritures, tu vas réaliser que ça devient un second langage. Tu as appris à connaître davantage Dieu et sa parole. Et donc, Dieu nous donne cette parole-là, cette loi-là, qui est une révélation de sa personne, afin qu'on apprenne à l'aimer, et ça va demander qu'on apprenne à aimer la parole, à aimer la Bible. Et donc, on veut se consacrer en 2022 à lire régulièrement les Écritures pour franchir ces domaines-là, ces endroits-là où tu dis « Ouf, c'est lourd! » Je me souviens certains cours que j'ai faits, soit lorsque j'étudiais en éducation spécialisée, soit lorsque j'étudiais en théologie. Tu arrives là et tu as l'impression que tu as le cerveau complètement vide, tu n'as aucun point de repère, le professeur évoque un paquet d'affaires, tu n'as pas d'endroit où les classer, tu n'as aucune idée où tu t'en vas. Probablement qu'il y a encore des livres dans la Bible qui te font cet effet-là. Tu les ouvres, puis là, tu dis, « Oh, l'année prochaine, pas de suite, non, c'est trop compliqué, j'ai pas de repère. » Mais c'est en lisant les Écritures, en discutant avec des gens dans l'Église, en prenant ces outils très communs qu'on a dans l'Église pour apprendre à découvrir la Bible, que tu vas apprendre à aimer les Saintes Écritures. Tu vas apprendre à aimer la Bible, puis par le fait même, tu vas apprendre à aimer Dieu. Dieu nous a donné cette loi-là pour que nous apprenions à aimer Dieu. Laissez-moi l'illustrer comme ceci. On a tous des gens qu'on aime dans notre vie, puis j'espère que vous avez tous des photos souvenirs de gens que vous aimez, avec qui vous avez passé des beaux moments. Puis lorsque vous regardez ces photos-là, ça évoque un paquet de souvenirs. Puis souvent, on va dire, j'aime cette photo-là de toi, j'aime ce souvenir-là, j'aime ce moment-là. En fait, c'est la personne que j'aime. Mais vous savez quoi? J'en suis venu à aimer énormément la photo. Pour de vrai. Je la regarde, puis elle évoque quelque chose. Je rencontre la personne, je suis heureux de la rencontrer, mais quand je vois cette photo-là qui me rappelle cette personne-là dans ce moment-là, peut-être une vacance, un voyage, un souper, peu importe, il y a encore un sentiment d'affection qui vient à moi parce que j'aime cette photo-là de cette personne. Mais ça ici, là, c'est la photo de Dieu. Littéralement, c'est une photo qui te révèle la personne de Dieu. Et plus tu vas apprendre à lire et à étudier les Écritures, plus ça va faire naître en toi des sentiments semblables à regarder des photos avec des amis, avec la famille, qui te rappellent de beaux souvenirs. Puis t'aimes les personnes, mais les photos elles-mêmes évoquent quelque chose. Et Dieu se fait connaître à travers sa Bible. C'est pour ça que des fois, on entend des chrétiens parler et on dit, « Coudonc, aimes-tu plus la Bible que Dieu? » J'espère que non, j'espère que non. Il y en a qui ont juste un rapport intellectuel avec la Bible. Ça serait une erreur extrêmement grave. Non, ce livre-là est pour me rappeler, c'est une photo qui me parle d'un être cher que j'aime tendrement. Mais en même temps, oui, tu vas entendre des chrétiens qui vont dire combien ils aiment la Bible. C'est un album photo, c'est un album photo de famille où je suis en train de regarder tant de beaux souvenirs de cet être que j'aime, mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Dieu nous a donné cette loi-là, cette parole-là, afin de saisir notre cœur, afin qu'on apprenne à l'aimer lui, et ça va demander qu'on aime sa parole. Voyez-vous, c'est dans le domaine du cœur, de l'affection, de l'amour qu'il veut produire en nous. Deuxièmement, Dieu veut venir transformer notre manière de penser. Deuxièmement, on veut apprendre à en parler ensemble constamment pour qu'elle occupe nos cœurs et nos pensées. Non seulement ça va saisir nos cœurs pour produire de l'amour pour Dieu, mais deuxièmement, cette loi-là, cette parole-là va venir transformer notre manière de penser. Regardez Deutéronome 6:6. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Maintenant, ce qu'il y a dans ton cœur, c'est un langage figuré, mais ça affecte toute ta manière de penser. Fais juste penser à ce que tu désires le plus quand tu te mets à rêvasser. Ça affecte ta manière de penser. Et donc, si la parole de Dieu, les commandements de Dieu sont constamment dans mon cœur, ils sont évoqués, quand je ferme les yeux, à différents moments, ce qui vient à mon esprit, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui vient façonner mes pensées par le fait même. Elles seront dans ton cœur pour qu'elles façonnent tes pensées. Regardez le verset 7. Moïse dit, « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Le mot « inculquer » est assez fort. Hein? Dans l'hébreu, l'idée qui est là, c'est déguiser la pensée. Tu vas enseigner à tes enfants afin de former une manière de penser, leur donner une perspective, une vision du monde, une vision de la vie, une vision de qui ils sont. Les Écritures sont là pour façonner notre manière d'être, notre manière de penser. Et c'est ça l'idée d'inculquer. Ce n'est pas que je vais les forcer, c'est que je vais nourrir leurs pensées et ça va en venir à définir leur vision du monde. Et c'est ça qu'on fait avec la parole de Dieu. Je vais vers les Écritures afin qu'elles transforment ma manière de voir le monde, ma manière de voir les épreuves, ma manière de voir les pandémies dans le monde, ma manière de voir toutes sortes de choses. La vie, la mort, l'argent, l'amour, toutes sortes de choses sont transformées par cette parole-là qui habite mon cœur et qui vient transformer mes pensées. C'est frappant, il parle de partager cette parole-là à la maison, d'échanger ensemble avec tes enfants. Tu vas le communiquer à tes enfants. Donc, c'est une parole, c'est une loi, une révélation de Dieu dont on va discuter ensemble. On va en discuter à la table, au souper avec les enfants. Avant de les coucher le soir, on va ouvrir les Écritures, puis on va pas simplement leur lire une histoire, ce qui est déjà bien, mais plus que ça, on va en parler ensemble. On va évoquer ensemble des choses. C'est intéressant, la même idée qu'on a dans Deutéronome 6 revient dans Deutéronome 11. Deutéronome 11, versets 1 à 3. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, ses signes et ses actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. » L'élément qui me frappe ici, c'est qu'on est appelé à discuter ensemble à la maison, dans la maison de Dieu qui est l'Église, entre nous, de la parole de Dieu, mais à la lumière de notre expérience de la foi. Ici, Moïse est en train de dire, les nouvelles générations n'ont pas vu tous les miracles que vous avez vus. Ils n'ont pas expérimenté la foi, expérimenté Dieu comme vous l'avez fait. Et donc, vous êtes appelés à leur enseigner ça et à leur raconter ça. Et je vois ici vraiment ce principe où, dans l'Église, bien, Jésus va nous dire, par exemple, dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ça veut dire que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont des disciples, vont aller vers des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, vont leur annoncer l'Évangile. Certains d'entre eux vont croire. Et lorsqu'ils vont croire, bien, ceux qui étaient déjà disciples vont partager leur expérience. On va partager la parole, on va ouvrir les Écritures ensemble, on va partager notre expérience de la foi, on va partager nos moments de découragement, nos moments de doute, nos moments où vraiment on s'est confié en Dieu, on va partager comment on a relevé tel ou tel défi. Donc, une génération est en train d'investir dans une nouvelle génération. Une génération de foi est en train d'investir dans une nouvelle génération de foi. Ceux qui avaient vécu l'Égypte ont vu des œuvres glorieuses de Dieu. Bien, ceux qui sont chrétiens depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez vu la gloire de Dieu de plein de manières. Par des gens qui sont venus à Christ, par Dieu qui est intervenu dans votre vie, par Dieu qui a répondu à vos prières, par Dieu qui a réformé des choses dans votre vie, autour de vous. Vous avez vu des histoires incroyables et expérimenté des choses incroyables avec Dieu et on est appelé à le transmettre. À celui qui n'a pas encore eu ces expériences-là, qui a la parole de Dieu, mais je veux non seulement lui transmettre la parole, on va discuter ensemble sur la parole et sur notre expérience à nous de la foi. J'ai le privilège de me rencontrer une fois par mois avec... On est 6 hommes ensemble. On a commencé ça il y a peu. Et puis, on est de différentes générations. Donc, moi, je suis le plus vieux. C'est nouveau pour moi d'être le plus vieux dans les groupes. J'ai 51 ans, je suis le plus vieux. Et puis, le plus jeune, je pense, a 20 ou 21 ans. Puis, on est 6 hommes ensemble. Certains sont chrétiens comme moi depuis 30 ans, d'autres depuis 5 ans, d'autres depuis un an. Et puis, on échange ensemble sur la parole de Dieu. Et cette diversité-là d'âge, d'expérience, d'âge dans la foi, fait que notre conversation autour de la parole est enrichie par des perspectives et des expériences différentes. On est là pour étudier la parole puis voir comment la parole vient façonner notre manière de penser, mais on le fait à travers différentes expériences. Et c'est ça que je vois ici dans Deutéronome 11. Quand tu t'assois avec tes enfants à la maison, quand tu prends du temps avec ton épouse, avec ton époux, quand tu prends du temps avec un ami dans l'église, avec un frère, une sœur dans l'église, puis vous échangez ensemble sur la parole de Dieu, vous arrivez avec votre bagage, les choses grandes et merveilleuses que Dieu a faites dans votre vie et les défis dans votre vie, puis ensuite on échange sur la parole de Dieu. Parce que chaque nouvelle génération a besoin de découvrir la parole, non pas seule, mais à la lumière de l'expérience de foi des générations précédentes. L'Église est appelée à être constamment multigénérationnelle dans la foi, où on est en train d'échanger nos expériences avec Dieu, dans la maison, avec les frères et sœurs à l'Église. On est appelé à échanger, à partager, à communiquer la parole de Dieu et la connaissance à travers ces relations-là. Je vais le dire comme ceci. Les relations dans l'Église locale deviennent des courroies de transmission de la connaissance de Dieu. La Bible n'est pas un livre individuel. C'est très récent dans l'histoire de l'Église puis dans l'histoire du peuple de Dieu. Évidemment, ça prenait l'imprimerie, ça prenait le petit peuple comme vous et moi qui apprennent à lire et à écrire pour qu'on puisse avoir une Bible chez nous puis qu'on puisse l'étudier pour nous-mêmes. Et il y a une grande valeur à faire ça. Mais la Bible n'a pas été donnée, cette révélation-là, pour être un outil individualiste. La vie chrétienne individualiste, ça n'existe pas. Si c'est ta vision du christianisme, il te manque un gros, gros, gros morceau de l'Évangile, probablement. Et la Bible elle-même n'est pas un livre qui nous a été donné pour être étudié seul. Je peux l'étudier seul, je devrais l'étudier seul, mais pas tout seul. Et donc, je vais lire les Écritures, mais ensuite de ça, on va échanger, on va partager, et il y a des relations qui vont s'établir où on va partager non seulement notre compréhension du texte, mais notre expérience du texte à travers des années de vie chrétienne. Et une génération de foi va partager avec une autre génération de foi. Donc, les relations dans l'Église locale deviennent la courroie de transmission de la connaissance de Dieu. Pas seulement la Bible, les relations deviennent ça. Ma prière pour l'Église de l'Espoir en 2022, c'est qu'on puisse reconnecter ensemble pour grandir. Et si 2021 a été un moment où on s'est un peu isolé par la force des choses, qu'on puisse vraiment mettre tous nos efforts pour avoir des relations, des connexions dans l'Église locale à travers plein de moyens qui sont disponibles. Mais des relations significatives, intentionnelles, où on partage ensemble ce qu'on découvre dans les Écritures et ce qu'on expérimente dans la foi. Ma prière pour toute l'Église de l'Espoir, c'est qu'au cours de l'année 2022, il y a ces connexions-là, ces relations-là riches où on partage ensemble la parole de Dieu. Et Dieu va venir façonner notre manière de penser. Voyez-vous, Dieu va travailler notre cœur, on va en venir à aimer davantage Dieu en aimant davantage sa parole. Dieu va venir transformer notre manière de penser aussi, il va venir réformer nos pensées alors qu'on va étudier, lire les Écritures, partager ensemble sur les Écritures. Puis enfin, Dieu va venir nous transformer concrètement. Il va nous apprendre à mettre ça en pratique. L'image que j'avais en tête alors que j'étais en train d'étudier le passage, c'était vraiment ça, le cœur pour l'affection, le but vraiment, c'est d'aimer Dieu et j'apprends à aimer sa parole, pas simplement pour nourrir mon intellect, mais pour nourrir mais vraiment mon affection pour Dieu. Le cœur, la pensée, réformer notre manière de penser, puis les mains pour mettre en pratique, pour appliquer la parole de Dieu et c'est ça littéralement qui nous est dit ici. Apprendre à suivre Jésus ensemble, c'est apprendre ensemble à appliquer ses prescriptions. Regardez Deutéronome 6:3. Tu les écouteras donc, Israël. Une petite fin de rhume. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez. Suivre Jésus-Christ, c'est apprendre à appliquer sa parole, à appliquer ses préceptes, à appliquer toute la parole de Dieu. Dans Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer. Littéralement, enseignez-leur à appliquer. Enseignez-leur à mettre en œuvre, à mettre en action, à agir conséquemment avec la parole. Dieu nous donne sa parole pour qu'on l'aime, pour que notre pensée change, mais pour que notre vie au quotidien, nos comportements, nos réactions, nos actions, nos entreprises, nos projets, ce que nous faisons, soient transformés et qu'on soit en train d'appliquer. Puis Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est le projet d'une vie, ça. Tu vas passer ta vie jusqu'au retour de Christ, jusqu'à temps que tu rentres vraiment dans la terre promise, que tu ailles vraiment rejoindre le Seigneur. Tu vas passer toute ta vie à chercher comment appliquer la parole de Dieu. Alors pour moi, ça, c'est le coup de fil que tu as avec un frère dans l'église, une sœur qui vit un moment difficile, perdu son emploi, sait pas trop comment réagir. Puis là, tu as appris avec le temps à écouter en premier avant de sortir la Bible. Puis là, t'écoutes, puis tu compatis. Puis à un moment, tu te dis, « Hey, qu'est-ce que tu dirais si on se tournait vers les Écritures? » Puis on cherchait ensemble comment Dieu veut t'accompagner là-dedans, puis comment moi je peux t'accompagner, puis comment tu peux réagir à ça. Puis on va ensemble dans les Écritures. Puis là, on va apprendre comment appliquer la parole de Dieu dans cette situation-là, littéralement. Mais le but de la parole de Dieu, c'est qu'elle soit observée, c'est qu'on vienne l'appliquer, qu'on vienne la mettre en œuvre. Et peut-être pour donner un petit peu de perspective à tout ça, nous, on se tourne vers toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, comme étant les prescriptions de Jésus-Christ. Quand Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », il n'est pas en train de dire « étudiez juste les quatre évangiles », ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire « comprenez mes enseignements et comprenez toute ma parole », parce que Jésus n'est pas venu abolir l'Ancien Testament, il est venu l'accomplir. Et donc, je vais lire toutes les Écritures. Cette année, là, dans mon plan de lecture, si vous êtes dans le même que moi, si vous avez embarqué avec nous, bien, vous pouvez lire la Bible en 2 ans, on serait dans la 2e année, ou vous pouvez faire comme moi, vous pouvez lire toute la Bible encore une fois cette année. Mais je vais lire toutes les Écritures à la lumière de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ pour apprendre à suivre Jésus. Donc, ce matin, j'étais dans Esdras et je cherchais à apprendre comment suivre Jésus à travers Esdras. Comment mettre en œuvre, comment appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, suivre Jésus-Christ à la lumière d'Esdras 2, par exemple, ou à la lumière de Acte 2. Et ça se fait lorsqu'on partage ensemble. On va échanger ensemble tout au long de l'année, puis on va partager. Je vais être très, très, très concret avec vous ce matin. On peut lire la Bible quotidiennement. Quel que soit ton plan de lecture, en passant, on a un groupe Facebook. Tu n'as pas besoin d'adhérer au même plan de lecture que nous pour venir sur le groupe. Viens sur le groupe juste pour nous partager ce que Dieu t'a montré. On échange ensemble, on s'encourage, on partage des choses, on pose des questions. Mais lire les Écritures quotidiennement va être essentiel pour apprendre à aimer Dieu en 2022, apprendre comment suivre Jésus. Lire la Bible, puis partager avec une personne régulièrement. C'est vraiment important que tu aies 1, 2, 3 personnes avec qui tu partages régulièrement ce que Dieu te montre dans les Écritures, ce qui des fois te choque, des fois te trouble. Honnêtement, c'est ma prière en 2022 que tu aies un partenaire, une partenaire, quelques partenaires de lecture biblique avec qui tu partages ces choses-là. Ça peut être sur le groupe Facebook, mais ma prière, c'est que ça aille un petit peu plus loin que ça, que tu aies des partenaires plus près, peut-être à la maison. Vous commencez à faire ça en couple. Hier, le premier, Esther et moi, on a commencé les méditations de Tim Keller sur les psaumes. Puis on va faire ça pendant l'année. Mon épouse et moi, on va lire, c'est très, très bref, mais ça va nous permettre de partager, de parler ensemble de la parole de Dieu. Puis la routine va s'installer, l'espace va être aménagé, on va avoir un peu plus de temps pour partager comment ça résonne dans notre cœur, comment ça nous challenge, comment ça nous fait grandir. Lire la Bible et partager avec une personne régulièrement. Lire la Bible avec d'autres personnes, dans ta maison, dans ton église, avec notre groupe Facebook. Partager tes réflexions, tes questions régulièrement. Lire la Bible en église le dimanche matin. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'à l'Église de l'Espoir, on lit la Bible le dimanche matin. Des fois même, c'est long, 20 versets. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est la parole de Dieu, puis parce qu'on va discuter de la parole de Dieu. Donc, avant de parler de la parole, on lit la parole. Parce que c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. Le prédicateur est juste un élément qui vient éclairer, qui essaie de nous aider à comprendre, à appliquer le texte. Mais Dieu nous parle à travers sa parole. Et donc, pour nous, lire la Bible en Église le dimanche matin, ce n'est pas pour la forme qu'on le fait. C'est parce qu'on croit vraiment que Dieu parle à travers sa parole. Suivre fidèlement les exposés bibliques du dimanche matin. C'est une pensée qui m'a trotté beaucoup dans la tête dans la dernière année. Personnellement, mon plus grand ministère envers toi, c'est la prédication. Ça va rester comme ça tant aussi longtemps que Dieu va m'appeler à servir ici. Mon plus grand ministère envers vous, même si vous étiez une personne que je suivais personnellement, même si vous étiez dans mon groupe de 6, mon plus grand ministère envers vous, c'est la prédication de la parole de Dieu. Parce que littéralement, celui qui apporte le message de la parole passe des heures dans la semaine à étudier des passages des Écritures. On est en train de compléter l'Évangile de Jean. On va reprendre puis on va compléter l'Évangile de Jean. On a passé des mois et des mois et des mois à étudier l'Évangile de Jean. Donc, j'ai une demande, un encouragement, une exhortation, prends ça comme tu veux, ne manque pas un exposé biblique. Ne manque pas une prédication. On est privilégié, on vit à une époque où c'est possible de se rattraper. Ne les manque pas. C'est mon plus grand investissement dans ta vie à toi. Et je le fais avec une passion, par la grâce de Dieu, depuis des années. Mais je m'applique à comprendre les Écritures, pas simplement pour moi, mais pour toute l'Église de l'Espoir, et donc pour toi aussi. Donc, être assidu, être fidèle à écouter le message de la parole de Dieu en 2022, même quand tu l'as manqué, te rattraper puis aller l'écouter, ça va être un investissement super intelligent pour apprendre à aimer Dieu et suivre Jésus. Discuter en Église de passages bibliques exposés, discuter après l'exposé du dimanche matin, après la célébration, utiliser des outils. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour étudier la parole, c'est fou. En fait, il faut se rappeler qu'on va étudier la parole parce qu'on pourrait être distrait par tous les outils. Mais il y a vraiment des beaux outils pour justement plonger dans les Écritures, que ce soit les méditations de Don Carson ou autres, que ce soit des outils d'étude des Écritures, que ce soit en écoutant la Bible plutôt que la lire. Je l'ai dit souvent à l'Église, moi personnellement, ça m'a vraiment facilité la vie. Ma première lecture de la Bible chaque matin est en audio. J'écoute mes textes bibliques, puis ensuite de ça, je vais vers un des passages que j'ai écouté, puis là, je vais aller méditer un peu plus sur ce passage-là. Mais je l'écoute. Il y a tellement de moyens aujourd'hui. L'Église est plus équipée que jamais pour pouvoir étudier la Bible. Puis enfin, à l'Église de l'Espoir, bien, on a plein de cours pour étudier la Bible. Bon, on va s'ajuster avec le confinement. On va voir comment ça affecte l'horaire. Mais il y a encore de très, très bons cours qui s'en viennent cet hiver pour pouvoir étudier la Bible ensemble, partager ensemble sur les Écritures. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. L'année 2021 n'a pas été facile. Elle a eu des défis. Puis en même temps, Dieu a fait des choses extraordinaires. Dieu n'est pas contenu par les pandémies. Dieu n'est pas contenu par les confinements. On a été déstabilisés. Je vous avoue que lorsque les annonces ont été faites, je les comprenais. Mais en même temps, ça a été comme lourd. J'ai dit, OK, il faut retomber en mode comment on prend soin de l'Église sans pouvoir se réunir. Puis je suis encore en train de comme d'encaisser ça puis de prier là-dessus. Et vous savez, c'est quoi mon secours? C'est d'aller vers la parole de Dieu. C'est d'aller plonger dans les Écritures, puis partager avec vous la parole de Dieu. C'est là que je trouve mon secours. Et donc, ma prière pour toi et moi, c'est qu'on puisse vivre ce beau passage du psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Ma prière, c'est que 2022 soit une année où l'Église de l'Espoir tombe en amour avec la parole de Dieu, afin de tomber en amour avec Dieu. Et que ça ne se vive pas individuellement, personnellement, chacun dans notre coin, mais que ça se vive ensemble, qu'on partage ensemble ce que Dieu nous montre dans sa parole, parce qu'on a besoin que nos affections, notre cœur soit transformé, que notre pensée soit transformée, et que notre mise en application de la parole soit transformée. Et c'est ce que Dieu veut faire dans l'Église de l'Espoir. Alors, je t'encourage à t'engager, à prendre du temps dans la parole, puis à demander à Dieu, « Seigneur, montre-moi avec qui je vais partager la parole cette année, dans quel cadre je vais le faire. » Puis à t'engager à être fidèle, à être assidu pour recevoir le ministère que les pasteurs exercent envers toi, principalement à travers la prédication de la parole de Dieu. Que Dieu puisse nous bénir dans sa parole en 2022. On va aller dans la prière. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer. Seigneur, tu nous as donné tes prescriptions, tu nous as donné ta parole remplie de sagesse, de vérité, Seigneur. Tu nous as donné à travers, Seigneur, ta parole, ta volonté, tes désirs, ta compassion, tes encouragements, tes exhortations, tes corrections, Seigneur. Et tu viens nous rencontrer personnellement lorsqu'on apprend à lire, à méditer les Écritures, à prier, puis à partager ensemble, Seigneur. Seigneur, je te prie que dans l'Église de l'Espoir, personne, Seigneur, ne découvre pas davantage ta parole cette année, parce que je veux que chacun, Seigneur, te découvre davantage cette année en Église. Donne à ceux, Seigneur, qui ont un cheminement peut-être trop personnel, trop individuel, trop isolé, Seigneur, d'avoir des connexions, des relations où ils partagent ensemble. Partage ensemble leur expérience de ta parole, leur expérience de la foi. Donne-nous d'avoir des relations significatives, Seigneur, où on peut vraiment échanger ensemble sur ce que tu nous montres dans ta parole. Et que cette expérience de ta Bible, Seigneur, devienne vraiment une expérience communautaire pour nous. Sois béni, mon Dieu, pour cette parole sainte, belle et merveilleuse, Seigneur. Cette révélation, cette photographie de cet être merveilleux que tu es, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.